Comment ça va tout le monde? Vous allez bien ce matin? J'ai vu que ça allait ici, ça. Je vais mettre ça ici comme ça. Et voilà. OK. Est-ce que c'est. Ah, et voilà. Est-ce que c'est pas les plus beaux enfants du monde, ça? La plus belle femme du monde, ça? Faites attention, si vous êtes marié, dites pas ça. Dites-le pas à voix haute. Très, très heureux d'être avec vous ce matin. Juste dire aussi merci à David. Il s'est sauvé. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Il s'est sauvé. Mais merci à David qui est là-bas. Juste, ça a été juste une main d'applaudissement. C'est un travail colossal, la conférence. Pour un week-end, je pourrais pas compter les heures que ça prend d'organisation, de mobilisation de tout le monde. Puis c'était génial. C'était vraiment super bien organisé. Il y avait même trop de sauce à spaghette. Fait qu'on a manqué de rien. Ce qu'on disait avec David hier, c'est qu'on voulait être nourri spirituellement et physiquement. Et Dieu a pourvu dans tous les cas. Amen! Amen! Je veux juste aussi prendre le temps de remercier Pasteur Adama, toute l'équipe de l'Église qui m'a si bien accueilli pendant tout le week-end. J'étais loin de ma famille, mais j'ai trouvé une nouvelle famille ici. Des nouveaux frères dans le Seigneur, des ouvriers aussi que j'ai appris à connaître. Puis je suis juste honoré d'être là avec vous ce matin. Alors, comme David disait, moi je suis pasteur d'Impact, qui est le groupe de jeunes adultes à Nouvelle Vie à Longueuil. D'Impact est issu le groupe Impact aussi, que les chants sont chantés. On en a chanté un tantôt, du band Impact. On a chanté ça en louange. Alors, moi, je suis pasteur là-bas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour vous situer un petit peu, c'est moi qui ai remplacé David Potier. OK, là, tout le monde. Ah, OK. Fait que, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, moi, je connaissais David, je l'ai pris dans mes bras, puis tout ça. Mais moi, j'étais sur son équipe, alors que lui était encore pasteur jeunesse. Là-bas, j'étais sur son équipe, je travaillais avec lui. Puis lorsque lui a quitté pour aller implanter la chapelle, quelques années plus tard, moi, j'ai repris le poste qu'il avait. Alors, pour vous situer, c'est ce que je fais, j'ai remplacé David. Je pourrais jamais remplacer David, OK? Je serais pas comme David, on est différents, mais c'est moi qui ai son poste. Et puis, ça va faire 5 ans que je suis marié dans un mois et demi. Ah ouais. Applaudissez ma femme! Applaudissez ma femme! Donc, c'est ça, 5 ans de mariage. Très, très bientôt, papa de 2 enfants, Emma qui va avoir 3 ans cet été. Puis Jacob qui a 3 mois. Alors, si vous voyez les cernes ici, bien, vous savez pourquoi. Jacob qui a 3 mois, le petit pet. Alors, je vais juste faire un petit mot de prière. Juste avant qu'on ouvre la parole de Dieu ensemble, je vais prier que Dieu parle à nos cœurs, mon cœur et vos cœurs ce matin avant qu'on sorte de ce lieu. Seigneur, on vient devant toi. C'est un privilège, Seigneur, d'être dans ta maison. Seigneur, merci parce que ta maison est vivante, Seigneur. Ta parole est vraie, Seigneur. Et alors qu'on ouvre ta parole et que ta parole est proclamée, elle ne revient jamais à toi sans avoir fait un effet dans nos cœurs. Alors, je te prie, Seigneur, que ce matin, tu viennes rendre ta parole vivante, que tu viennes ouvrir nos cœurs et qu'on puisse sortir de ce lieu tantôt différent de la manière qu'on est rentré. Et c'est dans ton nom et pour ta gloire que nous prions dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Combien sont d'accord avec moi qu'on sert un Dieu qui est sans limite? Parfait. J'avais peur qu'il y ait juste 3 personnes ce matin. Moi, je vous dis, il faut que vous me répondiez ce matin. Okay? Il faut que vous dites des amen. On est ensemble là-dedans. Okay? Moi, avec les jeunes, le vendredi soir, je leur dis, je ne veux pas que vous soyez assis et juste m'écouter comme ça. On est ensemble là-dedans. Je ne prêche pas pour vous, je prêche pour nous. On est tous ensemble là-dedans. Combien sont d'accord qu'on sert un Dieu sans limite? La Bible est très, très claire sur le fait que Dieu est sans limite dans toutes sortes d'aspects. Si on lit, par exemple, dans Isaïe, dans les psaumes, on va voir toutes sortes d'endroits que les psaumes où Isaïe va dire que Dieu a une intelligence sans limite, que ses voix ne sont pas nos voix, que ses pensées ne sont pas nos pensées. Combien sont reconnaissants que les pensées de Dieu sont plus grandes que les nôtres? Moi, je suis très reconnaissant de ça. Apocalypse, par exemple, va dire même que Dieu est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il n'y a aucune frontière au commencement et à la fin de Dieu. Dieu est sans limite. L'apôtre Paul lui-même, dans Éphésiens, va dire que Dieu peut faire infiniment plus qu'on peut imaginer ou même penser. Ça, c'est sans limite. Et on va regarder une portion de ce texte-là ce matin. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à aller dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 3. On va lire les versets 16 à 21 pour commencer. Alors, Éphésiens, chapitre 3. Si vous n'avez pas de Bible ce matin, il n'y a pas de problème, ça va apparaître sur l'écran derrière moi. Alors, les versets 16 à 21. Éphésiens 3, chapitre 16, versets 16 à 21. Paul qui prie pour nous. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance infiniment, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Verset 20, un verset que tout le monde connaît. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Paul nous parle ici, dans ce chapitre-là d'Éphésiens 3, il nous parle de recevoir cet amour-là que Christ a pour nous, que Christ a manifesté pour nous. Paul parle de réaliser cet amour-là, d'essayer de comprendre, de connaître la longueur, la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Christ. Et dans ce contexte-là, c'est là que Paul va parler de Dieu qui peut faire infiniment plus qu'on peut imaginer ou même demander. Et Paul va littéralement prier qu'on connaisse cet amour-là, de connaître l'amour de Christ. Mais l'amour de Dieu est tellement grand que ni vous et moi, ce matin, on peut arriver à le mettre dans une boîte, à dire « Voici, je connais l'amour de Christ ». On ne peut pas trouver les limites ou les frontières de cet amour-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que le titre de mon message ce matin, c'est « Un amour sans limite ». Un amour sans limite. Et dans la Bible, Dieu va principalement révéler son amour par Christ qui est mort pour nous à la croix. C'était l'acte suprême où Dieu a dévoilé son amour pour chaque personne. Mais il y a un livre particulier pour moi dans l'Ancien Testament où Dieu va prendre un prophète qui s'appelle Osée. Et le prophète Osée, Dieu va se servir de cet homme-là pour nous donner une bride, nous donner un aperçu de quel est son amour pour chacun de nous. Est-ce que vous voulez aller avec moi ce matin dans Osée? On y va ensemble. Même si vous ne voulez pas, on va y aller quand même. On y va ensemble. Vous pouvez aller dans le livre d'Osée. On y arrive dans quelques instants. Et dans ce livre-là, Dieu veut se servir de cet homme-là, Osée, pour nous faire comprendre, pour essayer de nous amener à saisir à quel point Dieu nous aime. Et pour comprendre cet amour-là, ou ce matin, pour aspirer ou tendre à comprendre cet amour-là, parce que lorsqu'on est croyant depuis plus de 20 minutes, on commence déjà à oublier cet amour-là. Quand ça fait des années qu'on marche avec Dieu, parfois on perd la beauté, on perd la grandeur de cet amour-là que Christ a manifesté pour nous. Billy Graham, l'évangéliste le plus connu des derniers siècles, dit ceci: « La plus belle démonstration de l'amour de Dieu envers nous, après la croix de Jésus-Christ, c'est l'histoire de Osée et Gomère. » Cet évangéliste, Billy Graham, qui a parcouru le monde, qui a prêché littéralement à des millions de personnes, cet homme-là, Billy Graham, a dit que la plus grande démonstration dans la Bible de l'amour de Christ, après la croix, c'est cette histoire qu'on va regarder ce matin. Pour comprendre c'est quoi l'amour de Dieu, il dit « Regardez à l'histoire de Osée et Gomère ». Pour comprendre le contexte, Osée, c'était un prophète. Par définition, un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Et c'est un prédicateur, c'est un homme de Dieu. Et Dieu s'est servi puissamment de lui. Et l'histoire qu'on va regarder ensemble, c'est 700 ans avant Jésus. Et à cette époque-là, il faut comprendre que lorsque Osée va s'adresser au peuple, il va prêcher au peuple, le peuple est très, très loin de Dieu. C'est une saison dans l'histoire du peuple de Dieu où le peuple est très rebelle à Dieu. Il y a une dégradation totale au milieu du peuple. C'était une génération à l'époque où il y avait beaucoup de richesses matérielles. Les gens réussissaient beaucoup, prospéraient beaucoup. Mais au niveau spirituel, ça allait beaucoup moins bien. Il y avait une perte de moralité complètement. Et c'était, en d'autres mots, c'était une génération qui était adultère spirituellement à Dieu. Et Osée, son mandat, qui n'était pas facile, c'était d'aller dans cette génération-là qui était remplie de biens matériels, mais qui était loin de Dieu dans son cœur. C'était d'aller là et de prêcher, de ramener le peuple à Dieu. Et c'est un pattern qu'on voit dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire. Si vous lisez l'Ancien Testament, il y a un pattern qui est là avec le peuple, où il y a le peuple qui est près de Dieu, et tranquillement, au fil des générations, souvent on voit le peuple qui commence à se rebeller ou à dévier tranquillement des voies de Dieu pour se retrouver dans un endroit où, ce que comme Osée va arriver, ils sont loin de Dieu. Et à ce moment-là, à chaque fois, Dieu va choisir une personne, va choisir un homme, et va l'amener au milieu du peuple rebelle pour le ramener à lui. Et ça, c'est Osée. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Osée va nous faire découvrir une dimension ou peut-être une compréhension ou une révélation de qui Dieu est dans son amour pour chaque de chaque personne. C'est une perspective. L'histoire d'Osée va nous donner une perspective peut-être différente, peut-être que tu n'as jamais ce matin vu de l'amour de Dieu. Ma prière, c'est qu'on sorte d'ici avec une perspective élargie à quel point Dieu nous aime et que Dieu aime ceux qui ne sont pas encore dans sa maison. Amen. Amen. Alors, pour commencer l'histoire, Dieu va demander quelque chose de très, très difficile à Osée. Il va lui dire, Osée, faut que tu trouves une femme. Combien sont célibataires ici? J'aimerais ça que Dieu me dise ça. Va trouver une femme. Va t'en trouver une. Et puis, c'est ce que Dieu dit. Trouve-toi une femme. Et là, moi, je me dis toujours, j'imagine Osée. Osée qui est là, OK, parfait, Seigneur. Il faut que je me trouve une femme. Et là, il se met à chercher. Moi, j'aime me mettre dans la peau du personnage qui reçoit les ordres de Dieu comme ça. OK, il faut que je me trouve une femme. Seigneur, elle est où ma femme? Quelle femme? Est-ce que c'est la belle là-bas? C'est-tu la belle fille là-bas qui a l'air vraiment fine, parfaite, éduquée, tout le kit? Puis là, Dieu va dire, ah, pas vraiment, Osée. C'est pas vraiment celle-là. En fait, je veux que tu cherches ta femme, mais je veux que tu ailles dans les rues difficiles de la ville. Je veux que tu ailles dans les quartiers chauds de la ville, là où il y a de la criminalité, là où il y a de la prostitution. Je veux que tu ailles chercher là. Et là, moi, je me dis, Osée devait se dire, OK, Seigneur, wow, tu m'appelles à aller trouver une femme qui sert ces gens-là. Tu m'appelles à trouver une femme qui va servir les gens dans le besoin. Et Dieu va dire, non, pas vraiment, Osée. Je veux que tu ailles dans ces quartiers-là, dans les quartiers où il y a de la criminalité, dans les quartiers où il y a de la prostitution, mais je ne veux pas que tu trouves une femme qui aide ces gens-là. Je veux que tu ailles trouver la prostituée qui est là-bas. Et je veux que tu fasses de cette femme-là ta femme. Alors imaginez le mandat d'Osée. Dieu qui lui dit, tu vas trouver une femme, mais tu vas aller trouver dans la ville, tu vas aller trouver la prostituée là-bas, et tu vas l'approcher, et je veux que tu ailles marier cette femme-là. C'est littéralement Dieu qui dit à Osée, « Tu vois comment mon peuple s'est éloigné de moi. Tu vois comment mon peuple que j'ai sauvé s'éloigne de moi. Tu connais mon amour pour chacun. » Moi, j'imagine Osée qui dit, « Seigneur, je sais que tu m'appelles à aller prêcher pour les ramener. Tu m'appelles à aller les ramener à toi. » Mais Dieu lui dit, « Je ne veux pas simplement que tu comprennes de cette manière-là. Je vais te faire vivre ce que moi je vis. Je vais te faire vivre l'adultère comme moi je le vis, mais spirituellement avec mon peuple. » Imaginez, ce n'est pas un job facile. Et Dieu qui dit, « Je vais te faire comprendre, Osée, ce que moi je vis. Je vais te faire comprendre qu'alors que moi j'aime tellement mon peuple, lui se rebelle et s'éloigne de moi. » Et la première pensée que je veux approfondir avec nous ce matin, c'est que dans l'amour sans limite de Dieu, Dieu va révéler son amour à travers Osée. Il va prendre Osée, il va révéler la manière qu'il nous aime à travers l'histoire de cet homme-là. On va regarder ensemble Osée, chapitre 1, verset 1, le commencement du livre. On va lire les versets 1 à 2. « Parole de l'Éternel adressée à Osée, fils de Béri, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda, et durant celui de Jéroboam, fils de Joas, sur Israël. » C'est un texte extraordinaire. Si vous avez des petits-enfants, des enfants qui cherchent des noms de bébés, là, il y en a plein là-dedans, très originaux. Si vous avez envie d'avoir un nom qui sort de l'ordinaire, il y en a plein là-dedans. Verset 2. Début des paroles de l'Éternel à Osée. C'est ce que l'Éternel commence à dire. Voici ton mandat, Osée. Voici ce qui va arriver. L'Éternel dit à Osée, va prendre une femme, pas la plus belle de la ville, pas la plus éduquée de la ville, pas celle qui a l'air parfaite. Va prendre une femme prostituée et des enfants de la prostitution. En effet, le pays se prostitue et il abandonne l'Éternel. Il dit à Osée, va choisir cette femme-là qui est prostituée, qui est adultère, qui n'a aucune fidélité en elle. Et il fait exactement le parallèle avec son peuple qui est infidèle à Dieu. C'est Dieu qui dit à Osée, tu vas marier cette femme-là, tu vas marier une femme infidèle et je veux que tu ailles l'aimer. Je veux que tu ailles l'aimer avec tout ce que tu as. Je veux que tu lui donnes ton cœur. Je veux que tu prennes cette femme-là qui va être infidèle et que tu lui donnes tout ce que tu as. Tu vas te marier avec elle. Je veux pas que tu te maries, mais que tu retiennes un petit peu. Non, tu vas te marier avec elle. Tu vas y ouvrir ton cœur. Tu vas l'aimer avec passion. Et je veux que tu fasses de cette femme-là ta femme. Et malgré tout l'amour que tu auras pour elle, malgré tout l'amour que Osée aurait pu avoir pour cette femme-là, il aurait pu tout faire, lui ouvrir la porte de l'auto pour rentrer. Il aurait pu tout faire, les fleurs à chaque semaine. Malgré tout ce que Osée aurait pu faire, cette femme-là, Gomer qu'elle s'appelle, Gomer va être infidèle. Gomer va lui briser le cœur. Gomer va être infidélité sur infidélité sur infidélité, malgré tout l'amour que Osée aurait pu avoir. Et l'appel de Osée, l'appel que Dieu donne à Osée, c'est de pardonner Gomer à chaque fois. C'est de pardonner Gomer malgré tout. D'aller l'aimer, et malgré toutes les infidélités, de l'aimer. de lui montrer de la grâce, de l'aimer malgré tout. Même si Gomère, elle, ne voit rien, même si Gomère n'est pas fidèle, même si Gomère lui fait mal, mais de rester fidèle à elle quand même. Imaginez. C'est Dieu qui dit à Osée puis qui nous dit jusqu'à nous, voici la vie d'Osée. Si vous comprenez ça, comprenez cet homme-là à quel point, en s'attachant à cette femme-là qui va lui être infidèle, à le pardonner, à démontrer de la grâce, à continuer d'être là, à continuer d'être fidèle. Lorsque vous regardez ça, vous commencez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu pour chacun de nous. C'est Dieu qui dit, ta vie va devenir osée. Je vais me servir de ta vie comme une illustration de comment j'aime chaque personne. Je vais me servir de ta vie comme une révélation de mon amour pour mon peuple. L'histoire d'Osée est probablement l'histoire biblique qui va nous révéler l'amour de Dieu le plus explicitement possible. Et j'aimerais dire à chaque croyant, si tu es croyant ce matin, Osée n'est pas juste une exception. Dieu a choisi Osée pour nous démontrer son amour pour nous d'une manière spéciale. Mais l'appel de chaque croyant est de révéler l'amour de Dieu à travers nous aussi. Ce n'est pas simplement Osée, on dit « Wow, pauvre Osée, ça a été difficile ». Chaque croyant a ce mandat-là, de refléter cet amour-là, de révéler pour les autres l'amour de Dieu pour chaque individu. L'apôtre Paul lui-même va mettre des mots sur cet appel-là, va mettre des mots sur ce mandat-là que chaque croyant a jusqu'en 2018 à Trois-Rivières. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 2 à 4, voici comment l'apôtre Paul va décrire cet appel-là qu'on a, de révéler l'amour de Dieu autour de nous. Regardez comment Paul va le dire. « Notre lettre, c'est vous-même. Vous êtes une lettre que les gens lisent. Une lettre écrite dans notre cœur que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ devant Dieu. » Ce que Paul est en train de dire, c'est que nous, aujourd'hui, on regarde dans nos Bibles, on lit la lettre, on lit le prophète Osée, c'est une histoire qu'on peut lire. Ce que Paul est en train de dire, c'est que maintenant, chaque croyant, on n'aura peut-être pas notre histoire dans un livre que tout le monde va lire dans 2000 ans, mais chaque croyant est une lettre ouverte que les gens partout autour de nous lisent et qui sont appelés à lire Jésus-Christ lorsqu'ils nous regardent. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il y a deux personnes qui me suivent. Est-ce que vous me suivez? OK, parfait. On est des épîtres vivantes que les gens lisent. On est des lettres ouvertes que les gens vont lire. Et pour plusieurs personnes, il y a des gens qui vous lisent partout où vous êtes, que vous soyez au travail. Les gens vont vous lire, que vous soyez à l'école, les gens vont vous lire, que vous soyez au gym, les gens vous lisent, que vous soyez sur la route, les gens vous lisent. Combien de fois est-ce qu'il y a des... Moi, j'aimerais ça des fois que des gens ne me reconnaissent pas quand je conduis, parce que pas toujours un bon témoignage. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça un peu? On a besoin de la grâce. Tout le monde a besoin de la grâce. On est tout en chemin. On est des épîtres vivants. Les gens nous lisent. Un des appels suprêmes que chaque croyant va avoir, c'est de révéler qu'à travers nos vies, à travers toutes les saisons, les bonnes comme les moins bonnes, que lorsque les gens regardent à nos vies, que nos vies révèlent l'amour de Christ. Osée est un personnage où Dieu le fait spécialement, mais Paul dit, oui, ça c'était pour Osée maintenant, chaque croyant est une épître vivante. Moi, je suis un pasteur dans la vie, et en 2018, quand tu as 28 ans et tu es un pasteur, c'est bizarre, OK, pour la population en général. Lorsque des conversations, lorsque moi je rencontre des gens dans toutes sortes d'endroits que je ne connais pas. Par exemple, je vais au centre d'achat, je suis dans l'avion, je suis à quelque part, je rencontre des gens. C'est quoi la première question qu'on pose à tout le monde? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et moi, ça, c'est la question que je redoute le plus. Parce que si je me dis, j'ai rencontré la personne, puis ça va bien jusqu'à maintenant. Tu sais, ça connecte, j'apprends à connaître. Puis là, aussitôt qu'elle me pose la question, « Hey, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » J'ai l'impression que tout se termine là. J'ai l'impression qu'elle ne voudra plus me parler après ça. C'est terminé. On essaie de construire quelque chose depuis 2 minutes, puis ça va s'effondrer. Lorsque quelqu'un me dit, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis moi, je dis, « Ben, je suis pasteur. » T'es pasteur, t'es-tu un curé, qu'est-ce que tu fais, nanana? C'est quoi ça? Tu te maries, qu'est-ce que ça marche? Ben oui, j'ai 2 enfants, puis tout ça. Puis il y a une histoire pour moi qui est restée marquée dans ma vie, il y a de ça maintenant presque 2 ans. J'étais chez le coiffeur, Et puis, c'est un nouveau coiffeur. En fait, maintenant, nous, à Montréal, on n'appelle plus ça les coiffeurs, c'est des barbershops. Okay? Je ne sais pas si ça s'est rendu jusqu'ici. Là. C'est des barbershops. Hein, fait que moi, j'arrive là, c'est nouveau. Les gars ne me connaissent pas là-bas, me coupent les cheveux. On commence à jaser d'un peu tout et n'importe quoi. On parle du Canadien de Montréal. On chiale sur le Canadien, évidemment. Ça ne va pas bien. Puis, on se met à parler de ça. Puis, on parle. Puis, il finit par demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis là, moi, je suis comme, enlève tes ciseaux de ma tête 2 secondes pendant que je te le dis, parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose quand je te le dis. Puis, je finis par dire, je suis pasteur. Puis là, lui, il fait, ben voyons donc, t'es pas pasteur, tu sais, ça se peut pas. Puis là, il s'en va chercher 2 autres de ses collègues. Les gars, venez voir, tu sais, comme si c'était une attraction, là. C'est comme, il vient me voir, puis là, il y a un gars, il est pasteur. Puis, savez-vous pourquoi? J'ai passé à peu près 2 heures de plus avec ces 3 gars-là. Puis on s'est mis à parler de la foi, on s'est mis à parler de la Bible, on s'est mis à parler de Dieu. Avec toutes sortes de questions. Ces gars-là n'avaient jamais lu une page de la Bible, n'avaient jamais ouvert une Bible de toute leur vie. Mais savez-vous ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de me lire moi. À travers moi, là, j'étais la première Bible qu'eux lisaient. Je leur parlais de Dieu, mon témoignage, mon histoire. C'était la première Bible que ces gars-là lisaient. Et il y a un de ces gars-là aujourd'hui, pas les 3, mais il y a un de ces gars-là qui vient maintenant à Impact, qui a donné sa vie à Dieu au fil des mois, puis vient à Impact le vendredi soir, parce que moi, je suis pasteur chaque semaine. Puis il y a un fruit là-dedans. Mais ma pensée pour nous ce matin avec ça, c'est que nous sommes souvent les premières Bibles que les gens vont lire. Avant même que ces gens-là aient une Bible dans leur main ou qu'ils soient assis sur une chaise dans l'église, ils vont lire vous, ils vont lire votre témoignage. Vous êtes ceux qui révèlent Christ pour la majorité des gens de votre entourage. Et c'est ce que Osée fait, c'est ce que Dieu fait avec Osée. Il va le mandater spécialement, lui, avec ce mandat, de « Je vais prendre ta vie et tu vas révéler mon amour pour des centaines et des milliers d'années plus tard. » Et c'est l'appel qu'on a encore aujourd'hui. Amen. 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 Dieu révèle son amour à travers Osée et nous donne ce mandat-là à nous aussi. La deuxième pensée qu'on regarde lorsqu'on continue d'étudier le texte, c'est que cet amour-là que Dieu est en train de révéler à travers Osée va nous montrer que c'est un amour pas un amour qui est stagnant, mais c'est un amour qui nous cherche. C'est un amour qui nous court après. C'est un amour qui nous poursuit. Dieu n'est pas assis là, les bras croisés, à attendre qu'on arrive. Dieu nous cherche. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Osée va révéler à toute une génération et des générations l'amour sans limite de Dieu. Et à l'époque, il faut comprendre, le peuple de Dieu a une vision très, très distancée de Dieu. On voyait Dieu à cette époque-là beaucoup comme un Dieu qui était, c'est le grand Dieu souverain, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu qui est autoritaire. Souvent, à cette époque-là, les gens avaient une pensée très, très autoritaire de Dieu, ce qui est encore présent aujourd'hui, en 2018. Les gens voyaient Dieu comme très, très, très distant. Mais à travers Osée, Dieu va révéler une autre facette de son amour. Oui, il est le Dieu souverain. Oui, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui est autorité et qui dirige son peuple. Mais c'est aussi un Dieu qui est proche. C'est aussi un Dieu qui veut une relation avec chaque personne. Ce n'est pas simplement le Dieu des armées qui dirige son peuple. Oui, c'est ce Dieu-là. Mais c'est aussi le Dieu de chaque personne. C'est le Dieu qui s'arrête pour chaque individu. C'est le Dieu qui cherche chaque cœur. Et dans son mariage avec Osée, Gomer, cette femme-là qui était prostituée, a été infidèle à plusieurs reprises. Vous pourrez lire le livre si vous voulez en entier, on n'a pas le temps ce matin. Mais elle a été infidèle à plusieurs occasions, plusieurs aventures. Non seulement elle donnait son cœur à d'autres, elle donnait son corps à d'autres. Et moi, j'ai l'opportunité de faire beaucoup de mariages par année. J'en fais au moins 5 ou 6 chaque année, des mariages. Puis c'est une des choses que j'aime le plus faire. Dans le ministère, c'est une des choses les plus joyeuses qu'on peut faire. Y a-t-il quoi de plus fun que juste célébrer l'union de 2 personnes puis de fêter ensemble devant Dieu tout ce qui se célèbre ensemble? Et le point central de la cérémonie, lorsqu'on fait la cérémonie, il y a toutes sortes de choses qu'on fait, mais le point central, ce n'est pas embrasser la mariée, les gars, OK? Ce n'est pas ça le point central. La plupart des gars, ouais, c'est ça le point central. Non, ce n'est pas ça le point central. Le point central d'une cérémonie de mariage, c'est l'échange des vœux. C'est que devant Dieu, devant les hommes, un homme et une femme, vont dire que peu importe ce que la vie va nous amener, peu importe les épreuves qui peuvent arriver, peu importe les tempêtes, devant Dieu, on se fait les vœux qu'on va, on va rester ensemble, on va rester fidèles l'un à l'autre et on va tout traverser ensemble. Et ça, pour moi, c'est le point central. C'est sur quoi repose un mariage. C'est l'engagement sans condition entre 2 personnes. Mais imaginez, Gomer ne fait que briser ça. jour après jour après jour après jour, elle brise le fondement même du mariage. Et lorsqu'on regarde ça, humainement, il y a souvent deux possibilités. Face à, disons que nous, on se met dans les souliers ou dans les sandales de Osée. Lorsqu'on regarde à Osée, la femme qui est juste infidèle, qui s'en va à gauche, à droite tout le temps, il y a souvent deux réflexes humainement, même encore aujourd'hui, dans des situations semblables, il y a deux choses qui arrivent. Soit on se dit, Osée va juste tourner la page là-dessus. Elle est partie. Osée est partie. Elle a plusieurs aventures, mais à ce point-ci de l'histoire, elle va juste quitter Osée. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Osée, on se dit, soit il va juste tourner la page. Essayer de passer à autre chose. Je vais tourner la page sur ça. Ou la deuxième chose qu'on risque de voir souvent, c'est qu'on verra un Osée qui va attendre qu'elle va revenir. Il va espérer qu'elle va revenir. Soit que je me dis, je tourne la page là-dessus, j'essaie d'oublier, puis je passe à autre chose. Ou soit qu'on se dit, je vais attendre qu'elle revienne. Je veux nourrir l'espoir qu'elle va revenir. Mais à travers Osée, Dieu va nous révéler une troisième option. Il y a une troisième chose que Dieu veut nous révéler. Osée va faire quelque chose d'extrêmement surprenant. Une facette de l'amour de Dieu que même nous, des fois, on a de la misère à saisir. Comment on est indigne qu'il fasse ça. Osée ne va pas attendre chez eux qu'elle revienne. Osée ne va pas s'asseoir dans sa chaise chez lui puis juste espérer qu'elle revienne. Ou Osée ne va pas se dire, parfait, je vais tourner la page puis je vais me trouver une autre femme. Savez-vous ce que Osée va faire? Osée va partir dans la ville. Part dans les rues, rue après rue, quartier après quartier, et va courir après Gomer. Incroyable. Imaginez la scène, imaginez Osée. Cette femme-là qui l'a quitté, adultère par le sein adultère, Osée sort de chez lui, pas en attendant, il ne va pas juste espérer qu'elle revienne. Osée sort et se met à la poursuite de Gomer. Se met à courir après elle pour la trouver. Se met à la chercher partout. Et j'aimerais vous dire ce matin que Dieu fait encore la même chose avec chacun de nous. Qu'à chaque fois que nous, on s'éloigne de lui ou qu'on est infidèle à Dieu dans toutes sortes de sphères de nos vies, Dieu n'est pas là à attendre qu'on revienne les bras croisés. Dieu n'est pas là à me dire « tant pis pour lui, tant pis pour elle ». Non, Dieu se met à courir après nous. À chaque fois que quelqu'un s'éloigne de lui, Dieu se met à notre poursuite. Dieu court après notre cœur. Dieu court après le cœur de vos fils, vos filles qui sont loin de Dieu en ce moment. Dieu n'est pas là éloigné. Dieu poursuit ces gens-là. Dieu poursuit les cœurs. Dieu veut notre cœur. Et Dieu le poursuit sans arrêt. Dans Osée chapitre 2, le chapitre juste après, alors que Gomer est déjà parti, voici ce que Dieu va dire. Chapitre 2, verset 16 à 18. C'est pourquoi je veux la séduire. Imaginez, elle est loin là. Elle est loin là. Je veux la séduire et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et je ferai de la vallée d'Accor une porte d'espérance. Quand il n'y a plus d'espoir, Dieu est là, je vais mettre encore l'espoir. Et là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse. Comme le jour où elle est sortie d'Égypte, parle de son peuple qui était adultère. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Malgré toutes les infidélités du peuple, Dieu est en train de dire ce que tu vas faire aux îles, ça va être l'image que je veux faire avec chaque personne, avec mon peuple. Quelques versets plus loin, verset 21, chapitre 2. Il dit, je te fiancerai à moi pour toujours. C'est littéralement Dieu qui dit à tout le monde ici. Là. C'est littéralement Dieu qui nous dit jusqu'en 2018, je me fiancerai à toi pour toujours. Ce que Osée est en train de faire avec Gomer, c'est ce que je veux faire avec toi. Je te fiancerai à moi pour toujours et je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité. Et tu connaîtras l'Éternel, pas la fidélité du peuple, ma fidélité. Pas ta fidélité, sa fidélité. C'est littéralement Dieu qui dit, je suis engagé envers toi pour toujours. Peu importe tu vas aller où, je vais aller te chercher. Je vais me fiancer à toi pour toujours. Je veux ton cœur. Littéralement, c'est Dieu qui dit à chaque personne ce matin, je veux me marier avec toi. Et peu importe ce que tu veux faire ou aller, je vais te poursuivre. Je vais te poursuivre jusqu'à temps que je puisse te rattraper. Ça, c'est Dieu pour chacun de nous. C'est Dieu qui nous dit jusqu'à aujourd'hui. Il faut que tu comprennes, comme avec Osée, tes infidélités me font mal. Tes infidélités spirituelles me font mal. Quand tu t'éloignes de moi, ça me fait mal. Quand ton cœur est dur, ça me fait mal. Comme une femme qui quitte son mari, ça me fait mal. Quand tu as des péchés cachés, là, ça me fait mal. C'est de l'infidélité envers moi, ça me fait mal. Ça me brise le cœur, comme Gomer brise le cœur de Osée. Mais Dieu dit par-dessus tout ça, je suis passionnément à la recherche de ton cœur quand même. Je suis passionnément en train de te chercher pour te ramener avec moi. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et je veux dire à plusieurs personnes, peut-être, qui ont besoin de l'entendre ce matin, moi le premier, de dire si peut-être vous vous êtes éloigné dans quelque sphère que ce soit de votre vie, de Jésus. Si vous vous êtes éloigné de cette foi-là, vous êtes peut-être refroidi dans la foi. Si vous êtes peut-être endurci dans votre cœur à Dieu. Peut-être que vous avez été infidèle spirituellement avec Dieu d'une quelconque façon. Dieu vous cherche. Dieu me cherche moi encore, malgré tout ce qu'on pourrait penser. Dieu nous cherche. Moi, j'ai toutes sortes d'histoires qui me bénissent tellement de voir comment Dieu agit encore aujourd'hui de la même manière que dans sa parole, il peut y avoir des milliers d'années. Dieu cherche les gens. Combien connaissent Stéphane Kerry? Quelqu'un qui connaît, c'est un musicien, prédicateur, qui est partout au Québec, en Europe aussi, l'Europe francophone. Puis il est un des pasteurs à Nouvelle-Vie. Puis un de mes bons mentors. Moi, quand je suis revenu à Dieu il y a 9 ans, j'allais jouer au hockey chaque samedi avec Stéphane Kerry. Il m'a aidé à revenir à Dieu. Puis il me racontait récemment un témoignage d'une femme alors qu'il faisait un concert de louanges à Saint-Hyacinthe. Il faisait ce concert-là. Il y a une femme âgée qui est venue le voir à la fin du concert pour le remercier. Puis Stéphane ne comprenait pas exactement pourquoi elle venait le remercier. C'était pour le service de louange. Puis elle a dit non, merci parce que Dieu s'est servi de toi il y a des années de ça sans que tu le saches. Puis il a raconté son histoire. Il racontait que dans la jeune vingtaine, cette femme-là a été extrêmement blessée, vécu une rupture amoureuse très difficile, blessée par l'Église, frustrée avec l'Église, frustrée à Dieu. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tout ça? Elle a quitté la foi dans la jeune vingtaine. Puis elle est partie vivre en France, à Limoges, dans la ville de Limoges. Puis elle dit, j'ai quitté tout juste parce que je ne voulais plus rien savoir de la foi, je ne voulais plus rien savoir de tout le monde. L'Église m'avait tellement blessé, cette situation-là m'a tellement blessé. J'ai eu une opportunité d'aller avoir un travail là-bas, puis je suis parti. Puis pendant des années, cette femme-là a été rebelle à Dieu, loin de l'Église, loin des voies du Seigneur. Puis un moment donné, il y a une fille de ses collègues de travail, qui elle était une croyante. Puis, il y avait un Québécois qui venait faire un concert de louanges à Limoges. Puis il a dit, vu que toi, tu es Québécoise, là, pourquoi tu ne viendrais pas au concert? C'est un Québécois qui vient faire un concert de louanges. Puis c'était Stéphane Kerry. Puis ça, on remonte à des années de ça. Plus de 15 ans de ça. Puis cette femme-là, ça faisait des années qu'elle était loin de Dieu. Puis là, cette femme-là était un peu sceptique. Mais elle a dit, c'est vrai que vu qu'il est Québécois. Puis là, son amie l'invitait souvent à l'église. Elle disait toujours non. Mais là, il y avait un Québécois. Elle n'avait comme pas le choix de dire oui. Ça n'arrive jamais qu'il y ait un Québécois qui vient à Limoges pour faire une soirée de louanges. Puis elle a dit, OK, je vais y aller. Fait que finalement, cette femme-là va avec son ami au concert de louange. Mais tu sais, la position comme ça. Tu sais, la position physiquement et spirituellement. Stéphane me dit que la madame lui disait « fermée ». Tu sais, elle est à quelque part à reculons, là. Ça ne tentait pas, mais elle est allée quand même. Puis cette soirée-là, Stéphane faisait un concert de louange puis prêchait un message après. Puis Stéphane prêchait sur Osée. Puis cette femme-là a été tellement touchée cette soirée-là. Elle n'en revenait pas. Que Stéphane Kerry, qu'elle connaissait même pas, mais un Québécois arrive à Limoges, qu'il n'y a pas de Québécois à Limoges, puis arrive là-bas, fait un concert de louanges, prêche un message sur le Dieu qui la cherche. Puis elle est là depuis des années, elle sait qu'elle fuit l'Église, fuit les voies de Dieu. Puis elle est là, puis cette soirée-là, elle a donné sa vie à Dieu, elle est revenue à Dieu. Et là, elle était revenue au Québec depuis quelques années, puis là, elle était à Saint-Hyacinthe au concert de Stéphane Kerry. Mais elle, de sa bouche même, elle dit, « Dieu me cherchait tellement. J'ai voulu me sauver de lui sur un autre continent. Puis Dieu me cherchait tellement qu'il a pris un Québécois. Il l'a amené jusqu'en France, jusqu'à Limoges, avec un message que j'avais besoin d'entendre pour me ramener à lui. » Elle a dit à Stéphane, « Plus jamais quelqu'un va me dire que Dieu ne cherche personne. Dieu a pris un Québécois jusqu'en France pour venir me chercher. » Et Dieu le fait encore aujourd'hui. Une autre histoire, c'est un des gars qui travaille avec nous à Impact. C'est un jeune qui vient de la Suisse. Il s'appelle Jonas, puis il est sur notre équipe pastorale jeunesse. Puis lui, il vient tout juste de finir tantôt. D'ailleurs, cet après-midi, il va avoir son diplôme, son baccalauréat en théologie. Puis il sert avec nous d'une manière impeccable depuis maintenant plus de 3 ans. Puis lorsqu'il est arrivé ici, il vient de Suisse. Moi, je l'ai rencontré 3 ans et demi environ. Puis lorsque je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas. Il me raconte un peu son histoire. Né dans une famille chrétienne, ce gars-là. Puis au fil des années, rendu à l'adolescence, comme beaucoup d'adolescents font en Suisse, en France ou au Québec, sont face à leur propre choix pour leur vie tranquillement. Puis lui a décidé de commencer à dévier, commençait à avoir des mauvaises fréquentations, commençait à être dans la drogue tranquillement. C'était en cachette beaucoup. Puis continuait à venir un petit peu à l'église, faisait toutes ses autres affaires, la drogue, les autres amis, les parties, tout ça, en parallèle. Puis un jour, toute sa vie secrète a été dévoilée. Puis ça a été pour lui un point de non-retour. Ça a été le choix, ben, est-ce que je veux revenir à Dieu ou non? Il a choisi d'aller dans le monde. Il a choisi juste de s'en aller dans cette voie-là. Puis pendant des années, dans son adolescence, ça a été ça, sa vie. Puis sur son chemin, après des années là-dedans, Dieu a mis sur sa route, qu'il a rencontré dans un restaurant de manière complètement hasardeuse. C'était un homme qui s'appelait Mathieu Bléry. Puis ce gars-là était un pasteur en Suisse. Puis Jonas ne l'a pas su sur le coup, parce qu'il dit « Si j'avais su que c'était un pasteur, j'aurais probablement jamais voulu le re-rencontrer, ce gars-là. » Puis ils ont juste commencé à prendre des cafés ensemble, ils ont commencé à se parler, commencé à échanger. Puis de semaine en semaine, de mois en mois, Mathieu a dit qu'il était pasteur, mais après ça, Jonas était juste « OK, mais le gars n'est pas bizarre, puis ça me fait du bien d'être avec lui. » Puis tranquillement, Mathieu, le pasteur Mathieu, commence à le ramener dans le bon chemin. Jonas est revenu à l'église une bonne fois. Puis il allait des fois, après ça, il pouvait être des semaines sans y aller, il revenait un peu, ça a été long. Jusqu'au jour où Jonas a redonné sa vie à Dieu avec pasteur Mathieu. Mais regardez bien l'histoire. Ça, c'est en Suisse. Jonas, lui, alors qu'il revenait tranquillement à Dieu avec Mathieu Bléry, le pasteur, il ressentait vraiment que Dieu l'appelait à le servir, à lui consacrer sa vie dans le ministère. Puis Jonas, lui, ne savait pas trop quoi faire avec ça parce qu'il était tellement loin de Dieu, était tellement loin des choses de Dieu. Puis lorsqu'il a redonné sa vie à Dieu, ça brûlait tellement qu'il a dit, il était marié maintenant, il a dit, on va faire quelque chose, on va faire un pas de foi, on va aller pour un an, on va aller voir, on va aller se former. Il voulait venir à l'ITF qui était ici sur la rive sud de Montréal, un collège biblique. Puis il a dit, on va faire un an, puis on verra qu'est-ce qui va arriver. Puis ils sont arrivés ici, moi c'est là que je les ai rencontrés. Leur plan c'était d'être ici un an. Et lorsqu'ils sont arrivés, savez-vous qui a été nommé le pasteur des étudiants 6 mois plus tard? Mathieu Bléry de Suisse, qui s'est envenu que 6 mois plus tard, est arrivé là. Et pour Jonas, c'était comme, « Seigneur, tu ne peux pas être plus clair que tu me cherchais en Suisse, tu as utilisé ce gars-là. Maintenant, tu m'appelles à être ici et t'amènes ce gars-là de l'autre continent à venir ici être le pasteur des étudiants du collège biblique dans lequel je suis. » Dieu le cherchait. Et Dieu nous cherche encore. Dieu te cherche, Dieu me cherche. Et la dernière pensée que je veux voir avec nous ce matin, c'est que Dieu va révéler son amour à travers Osée. Dieu va révéler que son amour, ce n'est pas un amour passif, mais c'est un amour qui nous cherche. Mais c'est aussi un amour qui rachète. C'est un amour qui nous a rachetés. Et Osée va l'illustrer d'une manière, je vous dirais, qui est difficile à imaginer. Osée, alors que Osée cherche sa femme partout dans la ville, de rue en rue, de village presque en village, la cherche partout, finit par la trouver. La trouve à un endroit que personne ne voudrait retrouver sa femme. Osée va retrouver sa femme au marché des esclaves. En plein marché public, à l'époque, c'était quelque chose qui était très, très ouvert. Il y avait des esclaves, c'était très commun de voir ça. Il y avait un marché public, il y avait des femmes qui étaient à vendre, il y avait des esclaves qui étaient à vendre, et c'était comme une vitrine. Les gens venaient regarder et pouvaient acheter un esclave. Et alors que Osée cherche sa femme partout, c'est exactement à cet endroit-là qu'il va la retrouver, littéralement, dans un marché d'esclaves. C'était un encan. C'était littéralement des femmes qui étaient là souvent, il y avait des enfants qui étaient là, et c'était au plus offrant. Les gens arrivaient, il y avait des personnes à vendre, et c'était au plus offrant qu'ils pouvaient acheter ça. C'était un lieu de moquerie, c'était un lieu de grande humilité. Et Osée retrouve sa femme là. Osée, chapitre 3, versets 1 à 3. L'Éternel m'a dit, c'est Osée qui parle, l'Éternel m'a dit, va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites. Aime-la comme Dieu t'aime, comme Dieu m'aime. Alors qu'eux, ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. On n'a rien contre le gâteau de raisin, mais c'est une image de l'époque. Je l'ai acheté, ça c'est Osée qui parle. Je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 450 kg d'orge. Verset 3. Je lui ai dit, tu resteras longtemps avec moi sans te livrer à la prostitution ni appartenir à aucun homme et j'agirai de même envers toi. Pouvez-vous imaginer la scène? Sa femme au marché d'esclaves, c'est déjà sa femme. Et Osée va là-bas, arrive là et la rachète. Il rachète la femme qui était déjà la sienne. Et il arrive, l'histoire nous dit, c'est 15 pièces d'argent. Et à l'époque, selon plusieurs commentateurs, 15 pièces d'argent, c'est environ la moitié de ce que coûtait un esclave à l'époque. La plupart des commentateurs disent que ça coûtait environ 30 pièces d'argent un esclave à l'époque. Alors, savez-vous qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que Osée arrive, probablement que 15 pièces d'argent, c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas 30 pièces d'argent. Ce que les commentateurs vont vous dire, si vous étudiez le texte, c'est probablement que 15 pièces d'argent, c'est tout ce qu'il avait. Et comme il n'y avait pas les 30 pièces, il a pris de l'orge qu'il avait et l'a donné pour compenser. Probablement que Osée a donné tout ce qu'il avait pour racheter sa femme. Imaginez cette scène-là. Gomer qui est là, elle, au marché d'esclaves, et il y a un homme au milieu de la foule qui dit « Moi, je la veux. » Et pensez-vous pas qu'elle a reconnu la voix? C'était pas la voix de n'importe qui, c'était la voix de son mari qui était là. Imaginez la scène. Au milieu du marché d'esclaves, la voix de son mari par-dessus toutes les autres qui dit « Moi, je la veux encore. Moi, je veux la racheter quand même. » C'est Osée qui était en train d'annoncer ce que Jésus a fait pour vous et moi. C'est Jésus qui nous a créés, parce que Jésus a tout créé. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. C'est Jésus qui nous a créés et qui nous a quand même rachetés. Pouvez-vous imaginer ça? Quelque chose que nous, on aurait créé, puis il faudrait qu'on rachète. C'était exactement ce que Osée a fait avec Gomer, qui est une image de ce que Jésus est venu faire pour chaque personne. Chaque personne qui a été créée par lui, qui a été rachetée par lui. Lorsqu'on croit que c'est un message tellement de grâce, lorsqu'on croit qu'on est allé trop loin, on s'est trop éloigné, notre cœur est trop dur, on était trop infidèle, lorsqu'on croit que peut-être quelqu'un dans notre entourage a été trop loin, lorsqu'on croit peut-être qu'un de nos amis, un de nos collègues, un de nos fils, nos filles, petits-fils, petites-filles, lorsqu'on croit qu'ils sont allés trop loin, que Dieu ne peut pas les racheter, rappelons-nous Gomer. Rappelons-nous Osée avec Gomer. Que Osée est allé la racheter au milieu du marché d'esclaves. Et ça fait écho au dernier texte de la matinée. Ésaïe, chapitre 54, versets 5 à 8. Regardez bien. Regardez bien ce que Dieu nous dit à chacun d'entre nous. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a fait. Et son nom est l'Éternel, le maître de l'univers. C'est celui qui te rachète. C'est celui qui t'a fait et c'est celui qui t'a racheté. C'est le Saint d'Israël et on l'appelle Dieu de toute la terre. Oui, l'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée, comme Gomer, à l'esprit abattu, comme une femme des jeunes années qu'on a rejetée, dit ton Dieu. Pendant un court moment, je t'avais abandonné, tu t'étais éloigné de moi, mais c'est avec une grande compassion, comme Osée, que je t'accueillerai. Dans un débordement d'indignation, je m'étais caché un instant de toi, mais avec un amour sans fin ou un amour sans limite. J'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. C'est Jésus qui payait le prix pour nos fautes à la croix, les fautes passées, les fautes présentes, les fautes futures. C'est sa grâce, c'est ce Dieu-là qui non seulement nous a fait, nous a créés, mais qui nous a rachetés, et que peu importe à quel point on s'est éloigné de lui, il est là, comme le texte nous dit, avec un amour sans fin. J'aurai compassion de toi, peu importe où tu as été, peu importe comment tu as été rebelle, peu importe jusqu'où tu t'es rendu. J'ai un amour sans fin, compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui nous rachète. Je vais terminer avec un mot de prière pour chacun de nous. Je vais inviter Pasteur Adama à venir nous rejoindre. Je vais vous inviter à baisser la tête, chacun à votre place. Seigneur, merci parce que ta parole est vraie. Seigneur, ces textes, bien plus que des histoires historiques, ce sont des textes historiques, ce sont des textes vivants. Ta parole est vivante, Seigneur, et ton amour qui est sans limite, qu'on n'arrivera jamais, Seigneur, à comprendre. On ne pourra pas mettre les frontières, on ne pourra pas mettre les limites à cet amour-là. On ne peut pas concevoir tout cet amour-là, Seigneur. Mais à travers cette histoire de Osée et Gomer, tu nous donnes un aperçu, Seigneur, d'à quel point tu veux te révéler à nous, à quel point, Seigneur, tu nous cherches et tu nous as rachetés. Et Seigneur, je veux te prier ce matin pour chaque personne dans ce lieu. Moi, je ne connais pas, Seigneur, la réalité, les défis, les blessures, les doutes peut-être qui sont là dans le cœur de chacun. Mais toi, Seigneur, tu connais chaque chose. Tu connais chaque cœur, tu connais chaque doute, chaque blessure, chaque questionnement peut-être, chaque erreur qui a été faite, chaque culpabilité peut-être dans les cœurs ce matin. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu viennes te révéler à nous d'une manière spéciale ce matin. Que ton amour, c'est qu'on n'arrive pas nous à concevoir, que tu puisses nous donner une fraîche révélation de cet amour-là. Seigneur, moi, je te prie ce matin pour chaque personne qui peut-être se sont éloignées spirituellement de toi ce matin, qui peut-être continue de venir à l'église, continue de faire le train-train quotidien, Seigneur, le métro de boulot de dos, Seigneur, mais que spirituellement se sont éloignés de toi. Peut-être le cœur s'était endurci. Seigneur, je te prie ce matin de venir à leur rencontre, Seigneur. Tu es le Dieu qui les cherche, Seigneur, et qui veut les racheter. Alors, je te prie pour moi et pour tous qui sont ici dans ce lieu, Seigneur, viens te révéler à nous personnellement dans ce lieu ce matin. Et Seigneur, c'est pour ta gloire, Seigneur, devant tout cet amour-là, cette compassion-là, cette grâce-là que tu as manifestée pour nous, on veut juste te louer et te donner la gloire ce matin, Seigneur, que nos vies puissent révéler ton amour aux gens autour de nous, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen.
Amen.